Masechet Psachim Daf Vav. On commence Bezrat Hashem à la quatrième ligne. Baumine Merava. Baumine Merava, on a demandé à Rava. Behemat Arnona. Behemat Arnona, c'est une vache, disons, qui est dans un troupeau duquel le roi y vient et il prend ses impôts. Il prend 1/10, on ne sait pas lequel. Et là, se pose la question, est-ce que Chayevet Bebrora ou en Chayevet Bebrora? Si ici, elle donne un nouveau-né, un veau, un premier veau, est-ce que ce premier veau-là, il est considéré comme Bechor, il a la Kdusha d'un Bechor, d'un premier-né, ou pas? Et la question, elle est en fait, elle tourne autour du fait que s'il y a un goy associé, alors il n'y a pas de Kdushat Bechor, aussi bien sur la mère que sur le veau. Ici, on se demande, est-ce que c'est considéré que le goy, le roi, il a, ici il s'agit d'un roi goy donc, est-ce que c'est considéré qu'il a une partie de cet animal et que donc il est patron de Bechora? La Gemara rentre plus dans les détails. Si le propriétaire, il peut éloigner, il peut rembourser l'impôt avec de l'argent, le kamibayalan de chayav. On n'a pas de question. Ici, il est clair qu'il est chayav parce que c'est considéré vraiment comme son animal. Qui kamibayalan, la question se pose, s'il ne peut pas le retirer, éloigner donc les impôts avec de l'argent. Et donc, on sait que le roi, il va venir, il va prendre d'ici un animal de ce troupeau-là. On ne sait pas c'est lequel maille. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on dira que donc il a une partie dans tout ce troupeau-là et que s'il est associé, alors il n'y a plus rien qui sera chayav de Bechora ou non? Amar le Ptura, Rava a répondu, c'est pas tour de Kdushat Bechora, il n'y a pas de Bechora à donner ici. Ve'atania chayavet, nous avons contre ça une braïta qui dit que c'est chayav. Répond la Gemara Hatam de Matim et Salekle, tout simplement. Là-bas, il s'agit d'un cas où il peut se débarrasser du roi en lui donnant de l'argent. Il peut l'éloigner d'ici en lui donnant de l'argent. Et donc, ici, c'est considéré que le seul propriétaire du troupeau des animaux, c'est le juif, et donc il est chayav. Ikadamra Marava, deuxième version. Behemat Arnona Ptura Min Abchora. Il est clair qu'à propos des animaux, c'est pas tour de Bechor, puisqu'il y a le goy qui est associé ici, que tout le monde sait bien, qu'on va lui prendre 1/10 du troupeau. Et donc, c'est considéré qu'il y a un goy associé, il est pas tour. Mais à Falgav de Matimessa les clés, même si il peut racheter, disons, ses impôts en argent, puisque, a priori, l'impôt, il est sur les animaux, alors, c'est considéré que le goy est associé, il n'est pas tout. Par contre, Issat Arnona Chayevet Bechala, de la pâte de Arnona, donc de la pâte où viendra ici le roi à nouveau, il va prendre ses impôts de cette pâte-là, ça, c'est 8 Chayev de prélèvements de Chala. Mais à Falgav de Matimessa les clés, malgré qu'il ne peut pas le retirer, en lui donnant de l'argent, il ne veut pas se débarrasser des impôts en donnant de l'argent et en gardant la pâte, il est quand même chayav de chala. C'est considéré comme s'il était le seul propriétaire de la pâte. Maïtama, pour quelle raison? C'est quoi la différence? Bema it la kala, isa let la kala. La Bema, tout le monde sait qu'ici le roi il va venir prendre 1/10, il y a les impôts et tout. Donc finalement, ce bruit-là qui tourne autour de ce troupeau, c'est que s'il ne va pas rendre kadosh, si le propriétaire ne va pas faire du béchor un béchor, tout le monde va comprendre pour quelle raison. Et donc, il n'est pas tour, effectivement. Tandis que la pâte, pas tout le monde sait que c'est une pâte sur laquelle sont imposés les impôts. Et donc, quand il ne va pas faire ses prélèvements de chala, on ne va pas comprendre pourquoi. L'être la kala, il n'y a pas ici de rumeur, il n'y a pas ici de bruit. Les gens n'expliquent pas, ne comprennent pas pourquoi. Et donc, il faudrait faire, oui, le prélèvement de la chala. Tanu Rabanan. Nochi shenichnas la chatzero shel Israël. Un goy qui est rentré dans la cour d'Israël, du juif, ou bateko beado, en plein Pessah, qui rentre avec son pain, en zakouk les verres. Le juif n'a pas besoin de brûler le pain du goy, le pain de la main du goy. Ifkido atelo zakouk les verres, mais si il lui a confié, le goy a confié au juif, il doit le détruire, il doit le brûler. Ifred le bait en zakouk les verres. Mais si par contre il lui a réservé une pièce, il a dit au goy, vas-y, tu peux mettre ici. Eh bien, dans ce cas-là, le juif n'a plus besoin de détruire. Chez Neymar, le Yématier, car la Torah nous dit, ne se trouvera pas chez toi du Hametz. Maïka Amar, qu'est-ce qu'on vient ramener de ce pasouk? Là, on a l'impression que le pasouk, il vient interdire. Répond la Gemara, Amar, Afapar, Aresh, Akai. Ce pasouk, là, effectivement, il vient prouver la première halakha de la Braïta, mais pas la dernière. Ve'arika Amar. Voilà ce que le pasouk vient nous apprendre. Ifkido et lo zekouk lever. On a dit que dans le cas où le goy a confié le chametz au juif, garde-moi ce pain-là, le juif a le devoir de le détruire, et là-dessus on a ramené le pasouk chez Neymar le yimatse. Il interdit que se trouve chez toi du chametz. Ravashi amar, l'olam asefar kai. Ravashi dit non. On n'a pas besoin de dire que ce pasouk-là se rapporte sur la recha. On peut garder que le pasouk il se rapporte sur la sefa. Verikama, ça se rapporte donc sur le deuxième cas. Ça se rapporte sur le cas où on a dit qu'il n'a pas besoin de brûler le chametz dans le cas où il lui a réservé une pièce. Et là-dessus, on l'a ramené parce qu'il est écrit « Ne se trouvera pas chez toi du chametz ». Quelle est la preuve du pasouk? Donc, le Gemara s'explique « Verikama ». Voilà ce qu'il veut dire. « Yichad lo bayit en zekouk lever ». Dans le cas où il a réservé une pièce, il n'a pas besoin de faire le biur chametz. Chez Neymar, lo yimatse bevatechem. La Torah dit qu'il ne doit pas se trouver chez vous du chametz. « Veha alav dideu ». Et ici, ça s'appelle pas chez moi. Car le goy, quand il rentre son chamet, les bêtes de nafshe kameayel, ça s'appelle qu'il est rentré chez lui. Cette pièce-là, elle est au goy, et donc ça ne me regarde plus ce qui se passe là-bas. Demande à Gemara, les mêmes des Sri Rout Kanya, tu veux dire par là que quand c'est loué, alors il y a un kinyan ici, c'est acquis au locataire, ça ne me regarde plus. Ve'atnan. Or, nous avons une Mishnah qui dit, Af, ben, comme j'aimerais l'askir, même là, on permet de louer sa maison à un goy, donc en dehors de Israël. Lo le bet dira amru. On n'a pas dit ça pour qu'il habite là-bas le goy, mais pnei shemachnisin etocha avodat gilulim, car il est interdit en dehors même d'Eretz Israël de louer sa maison à un goy, puisque le goy va rentrer là-bas sa avodat zara. Vissel kadatar de shirut kanya. Et si tu veux dire que la location c'est un kinyan, c'est acquis au goy, kikame ayel le bet edenaf shekame ayel. Alors lorsque le goy rentre sa avodat zara, kikame ayel quand il la rentre, le bet edenaf shek c'est dans sa maison à lui au goy. Kameayel qu'il rentre sa vodazara. Donc ça ne me concerne pas du tout, ça ne m'intéresse pas, il a qu'à faire ce qu'il veut chez lui. Et de même qu'on ne dit pas comme ça, on interdit de louer au goy, de la même manière on devrait aussi interdire de garder du chametz quand l'endroit il a été prêté ou loué au goy. Répond la Gemara Shaniacha, ici c'est quand même différent pour le chametz. La Torah dit que le chametz ne doit pas se trouver. Se trouver ça veut dire Mishe Matsui Biadra, celui qui est présent sous ta main. Ici, ça ne s'appelle pas qu'il est présent sous ta main, ce Hametz-là, puisque ce Hametz-là, il n'est pas présent sous ta main. Il est chez le Goy, même si c'est pas à qui, c'est pas ça le problème ici. Tant que il n'est pas devant toi, il n'est pas dans un endroit que tu utilises, et que tu peux utiliser parce que tu l'as prêté déjà au Goy, eh bien, dorénavant, ça ne te concerne plus, c'est le Hametz du Goy, dans la pièce du Goy, et tu n'as plus besoin de le détruire. Amar Abuda Amarab, Amote Chametz de Vetob Yom Tov. Celui qui trouve chez lui à la maison du Chametz en plein Yom Tov, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il doit s'affoler? Il doit se calmer? Qu'est-ce qu'il doit faire? Kofé Alav et Akli, tout simplement. Il prend un récipient et il le retourne sur le Chametz. Donc évidemment, il va pas prendre une assiette de Pessah, une casserole de Pessah. Il a qu'à prendre une bassine et il la met sur ce pain-là, sur ce Chametz-là pour le couvrir pendant Yom Tov, car il est interdit pendant Yom Tov de brûler le Chametz. Et de le laisser comme ça aussi, c'est interdit de peur qu'il risque de le manger. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est le couvrir. Amar Ravaim Shal Ekdeshu et Notarich. Si le Chametz, il est Ekdesh, il est consacré, il a été sanctifié au Beit HaMikdash, eh bien, on n'a pas besoin même de le couvrir. Maïtama, pour quelle raison? C'est pas la peine. Mivdal Bdilemine. De toute façon, les gens, ils s'en séparent. Ils ont l'habitude de ne pas toucher le Ekdesh. Alors, c'est même pas la peine de le couvrir. Vehamar Ravida Amarav. Chemto Shal Nochri. Le chametz d'un goy en plein Pessah qui se trouve chez moi, qu'est-ce que j'en fais? Osel le mechita sarat fachim mishum eker. Je le cache derrière une mechita de dit fachim. Donc je le cache derrière une mechita, une séparation de dit fachim, pour ne pas qu'on risque pendant Pessah de se tromper et de le manger. Bim shalek deshu et notarich, mais si c'est pas le chametz d'un goy, c'est le chametz du ekdesh, c'est pas la peine de le cacher comme ça. Maïta amam ibdal bdile in cheminé, car de toute façon les gens ils s'en séparent. Ve'amar abuda marav, mefarech ve'etebi shiara. Celui qui prend son chemin, il va en bateau, il va dans le désert, et donc ils sortent en grand groupe, ils sortent de ville en ville pour traverser les villes, les pays, et il sort en chemin, et voilà qu'il a du chametz chez lui à la maison. Kodem shloshim yom en zekouk lever. Si c'est avant les 30 jours de Pessah, d'avant Pessah, il n'a pas besoin de détruire son chametz. Tor shloshim yom, mais si c'est dans les 30 jours d'avant Pessah, zekouk lever, il faut le brûler. Amar Abaye, Ad Amra Torch Lashimiam Zakouk Lever, est-ce qu'on a dit qu'il faut le brûler dans les 30 jours? Donc si on est déjà dans les 30 jours d'avant Pessah, il faut brûler le Hametz avant de partir. Le Amaran et la Shidato l'Achzor. On ne l'a dit que dans le cas où il a l'intention de revenir chez lui. Avalen Dato l'Achzor, mais s'il n'a pas l'intention de revenir chez lui, Enzekou Klever, il n'a pas besoin de le détruire. Amar le Rava. Rava n'est pas d'accord du tout avec Abaye. Rava, il dit, c'est pas vrai. Vei Dato l'Achzor, s'il a l'intention de rentrer en plein Pessah. Afilu me Rosh Hashanah Nami. Pourquoi est-ce que tu limites à 30 jours? Même s'il est parti à Rosh Hashanah et qu'il sait qu'il va rentrer à Pessah, il est obligé de détruire son Hametz, de manière à ce qu'il ne revienne pas en plein Pessah et il verra chez lui du Hametz. Et il sera ouvert sur Balirae. Et là, Marava, donc Rava dit non. Hademrat kodem shlashim yom, enzakou klever, ce qu'on a dit que, avant 30 jours, il n'a pas besoin de brûler, il faut ajouter là-dessus une deuxième condition, le amaran et la chienne d'Atolarzor, condition qu'il n'a pas l'intention de revenir Pessah. Aval d'Atolarzor, mais s'il a l'intention de revenir Pessah, alors, à Pessah, alors à filim Rosh Hashanah zakou klever. Même depuis Rosh Hashanah déjà, il doit brûler son Hametz puisqu'il a l'intention de revenir en plein Pessah. Est-ce que pense Rava? Donc Rava, lui, il pense que pour permettre de laisser le Hametz comme ça, il faut deux conditions. D'abord, qu'il n'ait pas l'intention de revenir à Pessah, et ensuite, qu'on ne soit pas dans les 30 jours d'avant Pessah. Mais s'il lui manque une de ces deux conditions-là, il est obligé de brûler. Tandis qu'Abaye, c'est le contraire. Abaye, lui, il dit exactement le contraire. Abaye, il dit que il faudrait deux conditions pour lui interdire de laisser le Hametz. C'est-à-dire que c'est que dans le cas où on est dans les 30 jours et qu'il a l'intention de revenir à Pessah, c'est que là où je lui dis de le brûler. Mais s'il me manque une de ces deux conditions-là, il n'a pas besoin de le brûler, il peut le laisser tel quel. Vaza Rava l'étame. Rava qui est Mahmir ici, il suit son avis d'Ama Rava. Comme ce que Rava dit à propos d'un cas qui ressemble à celui-là. Aose beto otar kodem shloshim yom. Celui qui fait de sa maison une cave, il a rempli de blé. Avant les 30 jours, enzekouk lever, il n'a pas besoin de brûler le Hametz. Il peut remplir sa maison de blé ou de ce qu'il veut. Et il laisse le Hametz en dessous. Le Hametz est considéré comme un Hametz, ce qu'on appelle chez Nafla Lav Mapolet. Il y a une ruine qui est tombée sur le Hametz. Et donc, il n'est pas très accessible, le Hametz, on ne peut pas trop le prendre. Et dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de le brûler. Torche le chimium, zakouk les verres. Mais s'il fait de sa maison une cave dans les 30 jours de Pessah, il doit le brûler avant, il doit enlever tout le Hametz. Vekodem shloshim nami, et même ce qu'on a permis avant les 30 jours de remplir sa maison, d'en faire une cave, alors qu'il a encore du Hametz là-bas, le Amaran et la chaîne d'Atolefanoto. On ne l'a dit qu'à condition qu'il n'a pas l'intention en plein Pessah de vider sa maison. Aval d'Atolefanoto, mais s'il a l'intention de vider sa cave, afilu kodem shloshim yom nami, zakouk lever, même avant les 30 jours, il doit brûler le Hametz parce que finalement, pendant Pessah, il va enlever tout son blé. Il va retrouver le Hametz. Bon, son blé, c'est un peu difficile à comprendre, mais c'est-à-dire, il pourrait être Hametz, le blé lui-même. Disons qu'il s'agit d'autre chose. Il va enlever toutes ses pommes de terre et il va trouver le Hametz en dessous. Donc, c'est pas possible. Donc, ici, on voit encore une fois que Rava pense que pour permettre, il faut deux conditions. D'abord, qu'on soit avant les 30 jours et ensuite, que ça reste pendant Pessah, que ce soit pas porté de main pendant Pessah. Donc, soit ça reste dans la cave remplie, soit ça reste enterré dans la cave, disons, c'est-à-dire couvert par toutes ses pommes de terre, soit qu'il est sorti, comme on a dit, il est sorti avant les 30 jours, il n'a pas l'intention de revenir pendant Pessah. La question qui se pose ici, c'est d'où viennent ces 30 jours-là? On est en train ici de donner une définition qui serait de dire que dans les 30 jours d'avant Pessah, un homme est responsable de la mitzvah du Pessah. Avant 30 jours, il peut dire « Non, je ne suis pas ici concerné encore par la mitzvah de Pessah. Pessah ne se présente pas encore devant moi. Donc, je n'ai pas besoin de vider ma maison. » À partir du moment où je n'ai pas l'intention de revenir chez moi pendant Pessah. Mais dans les 30 jours, il ne peut plus dire comme ça. Il est déjà responsable de toutes les mitzvahs de Pessah, de ne pas avoir de Hametz sur lui pendant Pessah, aussi bien s'il est là que s'il n'est pas là. Et la question se pose, mais d'où viennent ces 30 jours-là? Qui a parlé de 30 jours? « Hanesh lo shim yom » Mai avid tayu. Qu'est-ce qu'ils font ici ces 30 jours-là? D'où ils viennent? Kedetan la Gemara répond. On voit dans une braïta. Shoalin vedoroshin milchot a pesach kodem a pesach. On pose des shelot de halacha. Et le rav, il doit enseigner la halacha de halacha, de pesach. Sur pesach. Kodem a pesach shloshim yom. Depuis 30 jours avant pesach. Depuis 30 jours avant pesach. C'est déjà le temps où il faut se renseigner quels sont la loi de Pessah et il faut les enseigner aussi. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, j'étais Shabbatot, pas 30 jours avant, mais 2 semaines avant Pessah. Maïta Hamad et Tanakama. Quelle est la raison de Tanakama qui donne 30 jours avant Pessah? On tourne la page. Shari Moshe Omer de Pessah Rishon, car Moshe se tient au Pessah Rishon le 15 Nissan, ou Mazir à la Pessah Sheni. Et déjà, il annonce et il prévient comment faire la lachot du Pessah Sheni du 15 Iyar, ou du 14 Iyar. Donc Moshe se tient à Pessah Rishon, 30 jours avant le 14 Iyar, et il enseigne déjà la lachot du 14 Iyar pour ceux qui ne peuvent pas faire le premier Korban Pessah, ceux qui sont impurs, ceux qui sont trop loin, etc. Et donc on voit que 30 jours avant la mitzvah, déjà, on est responsable de cette mitzvah. Chez Neymar, comme il est dit, Veyasu ben Israël et ta Pessah et Moado, les ben Israël doivent faire le Pessah, le Korban Pessah en son temps, donc le 14 Nissan, Uktiv, il est écrit là-bas, il y avait des hommes qui étaient impurs, et eux, ils ont demandé qu'est-ce qu'on fait. On leur a dit, vous allez faire dans un mois. Donc ici, on se trouve le 14 Nissan, et on les prévient qu'est-ce qu'ils doivent faire dans un mois. Donc on voit que 30 jours avant le Chag, 30 jours avant Pessah déjà, un homme est responsable de la mitzvah de Pessah. Le Rabban Shimon ben Gamliel Amar Lecha, lui, Rabban Shimon qui pense 2 semaines, il te dit, puisque la paracha là-bas, elle commence à traiter la lachot du Pessah, puisqu'on est le 14 Nissan, donc c'est le moment de traiter la lachot du premier Pessah, masiklo le kol mile de Pissra. Tant qu'on y est, on enseigne déjà, on termine là-bas toute la lachot du Pessah, même celle qui ne concerne que le deuxième Pessah dans un mois, qui viendra que dans un mois. Mais pas parce qu'un homme est responsable déjà un mois avant de connaître la lachot et de faire attention aux mitzvot de Pessah. Donc on n'a pas de preuve d'ici. Maïtamad Rabban Shimon ben Gamliel. Quelle est la raison de Rabban Shimon qui dit 2 semaines? Share Moshe omed berosh haChodesh, car Moshe se tient Rosh Chodesh Nissan, ou Mazir à la Pessah, et il les prévient de faire les mitzvot du Korban Pessah dans 2 semaines. Chez Neymar, comme il est dit, haChodesh atelachem Rosh Chodeshim, ce mois-ci est le premier des mois, Uktiv, il est écrit là-bas, Deberu el kol adat Israël les morts, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, ainsi dit Hachem à Moshe et à Aaron, Beasor la Chodesh Azé, au 10 de ce mois-ci, donc le 10 Nissan, Veikroulem, Iselevatavo de Gomer, chaque homme doit prendre un agneau par famille, etc. Donc on voit déjà que depuis Rosh Chodesh Nissan, Akadosh Baruch Hu et Moshe aussi, avaient enseigné à tout Israël la mitzvah du Korban Pessah 2 semaines avant. Demande à Gemara, mais où tu as vu qu'il s'agit de Rosh Chodesh Nissan? Mimai de Bereshia Hakai, qui a dit qu'il se tienne Rosh Chodesh Nissan? Dilma, Be'arba, Be'acha, Be'chamisha, Be'acha. Peut-être que non, c'était déjà le 4 ou le 5 Nissan. Qui a dit qu'on parle de Rosh Chodesh? Elama Rabba Varshimi, Mishmed Rabina, Me'acha. La Gemara ramène un autre pasouk. Be'edever Hashem, El Moshe, Be'midbar Sinai, Bashana Hashenit. Donc Hachem a parlé à Moshe à Midbar Sinai la 2e année, 1 an après qu'ils sont sortis d'Égypte, Bachodesh Arishon, le 1er mois qui est Nissan. Uktiv, et il est écrit là-bas, Veyasu ben Israël ta Pessah ben Moado. Et Israël devront faire donc le Korban Pessah en son temps. Donc il est écrit ici que la mitzvah a été donnée Bachodesh Arishon au Midbar Sinai. Donc en Nissan, à Midbar Sinai, ils ont été ordonnés de faire attention au Korban Pessah, de faire attention d'accomplir la mitzvah du Korban Pessah. Et ici aussi se pose la question, mais à Hanami, ici aussi on demandera, qui a dit qu'il se tenait le Rosh Chodesh 2 semaines avant? Dilma Barba Beyacha, Obechamisha Beyacha, peut-être que c'était le 4 ou le 5 Nissan. Peut-être que c'était pas Rosh Chodesh, c'était déjà le 4 ou 5. Amar Avnachan Maritra. Avnachan Maritra qui dit non, ici c'est obligé de dire que c'était Rosh Chodesh. Atia Midbar, Mi Midbar. On apprend une Xerashava du mot Midbar qui apparaît 2 fois dans les Psukim. Ktivacha ve Midbar Sinai. Ici il est écrit à propos de Korban Pessah ve Midbar Sinai. Ou Ktivatam, et on trouve ce même mot-là ailleurs. Vaidaber Hashem al Moshe ve Midbar Sinai. Beoel Moed. Hashem a parlé à Moshe ve Midbar Sinai, dans le désert de Sinai. Beoel Moed dans le Mishkan. Mechad Achodesh Hasheni, au 1er du 2e mois, donc Rosh Chodesh Iyar. Il ne s'agit pas là-bas de Korban Pessah du tout, il s'agit d'autre chose complètement. Il s'agit du compte là-bas des Bnei Israël, mais en tout cas on voit qu'on trouve dans le Pasouk la notion de Bemidbar Sinai, Midbar, et là-bas il s'agit de Rosh Chodesh. Donc Ma'al Alan de Rosh Chodesh, Afkan de Rosh Chodesh. De même que Bemidbar Sinai de ce Pasouk ici, du Rosh Chodesh Iyar, il parle de Rosh Chodesh. De la même manière, lorsque la Torah nous parle de Bemidbar, À propos de Korban Pessah, le Midbar Sinai, il s'agit aussi de Rosh Chodesh, donc il s'agira là-bas de Rosh Chodesh Nissan. Et donc tu vois que deux semaines avant, il faut faire déjà attention aux mitzvot de Pessah. Demande à Gemara, Venichtov Bereja de Chodesh Rishon, Veadar Nichtov de Chodesh Sheni. On a un problème un peu dans l'ordre des psukim. Comment cela se fait-il que dans Parasha d'Amidbar, qui est la première Parasha du Chumash Bamidbar, du quatrième Chumash, la Torah parle de la mitzvah qui a été donnée le premier Iyar de la deuxième année. Dans Parashat Ve'alotra, trois parashiot plus tard, la Torah nous donne la mitzvah du Korban Pessah qui a été donnée le premier Nissan de la deuxième année, donc un mois plus tôt. Pourquoi est-ce que la Torah commence par Rosh Chodesh Iyar et trois parashiot plus tard, on trouve Rosh Chodesh Nissan qui s'est passé en fait un mois plus tôt? La question elle est, on reprend dans la Gemara, Venichtav Beresh, la Torah aurait dû écrire d'abord de Chodesh Rishon, donc Rosh Chodesh Nissan, Ve'adar Nichtav de Chodesh Sheni, et ensuite, après le Korban Pessah, la Torah aurait dû parler de Chodesh Sheni, de Rosh Chodesh Iyar, où la Torah dit de compter les Bnei Israël. Répond la Gemara, Marav Menashe, Bar Tachlifa, Mishmederav, Zot Omeret, de là on voit, El Mukdam Meuchar Batorah. Il n'y a pas d'ordre fixe dans la Torah. On ne dit pas que ce qui précède dans l'Epsukim, c'est ce qui a précédé dans l'histoire. Ce qui vient plus tard dans l'Epsukim, c'est ce qui vient plus tard dans l'histoire. Non, il n'y a pas Mukdam ou Mucha, il n'y a pas plus tard dans la Torah. Il pourrait y avoir un autre ordre que l'ordre des événements. Amar Rav Papa, Lo Amaran El Abitre Inyane. Rav Papa dit, quand est-ce qu'on dit El Mukdam ou Mucha Batorah? Quand est-ce qu'on dit que ce n'est pas dans l'ordre du temps? C'est que quand les Psukim se trouvent dans deux contextes complètement différents. Aval Bechad Inyana, mais quand les deux Psukim sont dans le même contexte, là-bas on est obligé de dire que Maïde Mukdam Mukdam ou Maïde Mouchar Mouchar. Ce qui est écrit avant dans les Psukim, c'est passé avant, ce qui est écrit plus tard, ça vient plus tard. Il y a un ordre dans la même paracha, dans la même parachia, il doit y avoir un ordre. Dilotemahi, car si tu ne dis pas comme ça, alors tu vas perdre complètement la notion des drachot de Kalal ou Prat. Comment on comprend Kalal ou Prat, En Baklal et Lama Sheba Prat? On sait bien que si la Torah nous donne d'abord un Klal, elle nous donne d'abord une halakha générale. Et ensuite, elle nous donne les détails. Eh bien, on tient que En Baklal et Lama Sheba Prat ne rentrent dans le principe, dans la généralité, que les détails, pas plus que ça. Qui a dit Dilma Pratu Klalu? Qui a dit que l'ordre que tu vois dans les psukim, c'est le vrai ordre? Peut-être que non, il faudrait lire les psukim dans l'autre sens. D'abord, il y a le détail qui a été donné, et ensuite le klal. Et donc, on a perdu toute cette racha-là. On est obligé de dire que non, puisque c'est dans le même contexte, alors il faut suivre l'ordre des psukim. Klal ou prat, c'est bien klal ou prat. Vetu, deuxièmement. Prat ou klal. Des fois, j'ai dans les psukim le contraire. D'abord, on a les détails, et ensuite, on a le klal, général. Et là-bas, on dit, Nasa klal musaf ala prat. On a ici plus que les détails, puisque la Torah a terminé par un klal, elle est venue ajouter même bien plus que les détails, où nous avons tout ce qui rentre dans le klal. Et à nouveau se posera la question, si tu dis qu'il n'y a pas d'ordre dans la Torah, alors dilma klal ou pratu, quand tu vois dans les psukim, prat ou klal, détail et ensuite généralité, peut-être c'est le contraire, peut-être c'est d'abord le klal, ensuite les détails. Et donc on a perdu les drachas. Donc on est obligé de dire que quand c'est dans le même contexte, il faut suivre l'ordre des psukim. Demande à Gemara Iyachi, Afilu Bitre Inyan Enami. Si c'est comme ça, tu as qu'à dire même dans deux contextes différents aussi, il faudrait suivre l'ordre. Parce que sinon, on aura perdu Klal ou Prat dans deux contextes différents. La Gemara s'explique plus. Anir Alemanda Amar. Ça va bien selon celui qui pense. Klal ou Prat Amouchakin Zemizé. Si j'ai un Klal, et j'ai sur ce même Klal, j'ai les détails, mais ils sont écrits loin l'un de l'autre. En dani noto bekal ou prat. On ne le juge pas comme un klal ou prat. Si tu dis comme ça, Shapir, ça va bien, il n'y a pas de problème. Tu pourras effectivement garder ce qu'on a dit. Il n'y a pas d'ordre fixe dans la Torah dans deux contextes différents. Dans deux inyanim différents. On dit pas, on ne connaît pas l'ordre de la Torah. Même si ça avait été écrit avant, ça pourrait être, il se peut que ce soit après la paracha d'ensuite. Donc finalement, on n'a pas d'ordre, c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus les juger comme un klal ou prat. Et l'élément de Amar Danin, mais selon celui qui pense qu'on le juge, lui, comme un klal ou prat. Maïk Alemar, qu'est-ce qu'on pourrait dire ici? On devrait dire que peut-être tu ne connais pas l'ordre, peut-être c'est en désordre. Répond la Gemara, l'élément d'Amar Danin, même celui qui dit qu'on peut faire la dracha de klal ou prat dans deux inyanim, anemi le bechad inyana. Aval bitre yane endanin. C'est vrai que quand le klal et le prat ils sont loin l'un de l'autre, on fait une dracha de klal ou prat, mais à condition que ce soit quand même dans le même contexte. Bechad inyana, dans le même inyan de psukim. Aval bitre yane, mais si on les trouve dans deux contextes, dans deux sujets différents, dans deux parachiotes différentes, là où la Torah a déjà changé de sujet, là, endanin, c'est sûr qu'on ne peut plus le juger comme un klal ou prat, même selon celui qui pense que même quand ils sont loin l'un de l'autre, on les juge comme un klal ou prat. Dans ce cas-là, on ne va déjà plus les juger comme un klal ou prat, à partir du moment où ça a déjà changé, la Torah a changé de inyan, de sujet. Amar Avuda Amarav. Habodek, celui qui fait bdikat ramet, tarir shevatel. Il doit, au moment où il fait bdikat ramet, quand il termine, il doit faire bitoul. Il doit annuler le ramet. Il doit annoncer, tout le ramet que j'ai est annulé. Donc, évidemment, enfin, pas évidemment, mais en tout cas, dans les poskim disent que c'est pas le ramet que j'ai trouvé que j'annule. Le khamet que j'ai trouvé, je n'annule pas de manière à pouvoir accomplir avec la mitzvah de le brûler le lendemain. Mais le khamet que je n'ai pas trouvé est annulé. Maïtama, quelle est la raison? C'est quoi le problème ici? Pourquoi est-ce qu'il faudrait annuler le khamet? Je viens déjà de faire une bdikat khamet, je me suis bien fatigué, enlever tout le khamet de la maison. Pourquoi ensuite ce bitoul? Pourquoi on dit le bitoul comme quoi j'annule le khamet? Inema mishum perurin, si c'est à cause des miettes, alors shivé, elles n'ont aucune importance. Si tu veux dire que puisque c'est quand même gardé dans sa maison archivée, alors ça prend de l'importance. Nous avons une braïta qui ne dit pas comme ça. Une braïta qui dit, sofet enim, celui qui a dans son verger, il a dans son champ des figues qui n'ont pas mûri, qui ne vont plus mûrir, ça y est, la saison est passée, il reste des dernières figues qu'il laisse comme ça sur l'arbre. Ou meshamer sadeh mipnei anavim. Cependant, lui, il garde quand même son champ, à cause des raisins qui sont encore en bon état, ce n'est pas encore arrivé l'heure de les récolter. Et donc finalement ici, les figues, les mauvaises figues, elles sont gardées, mais il n'a pas l'intention de les garder à elles. Il les garde parce qu'il veut garder les raisins. Ou bien, sauf à Navim, les raisins qui lui restent sont des mauvais raisins, c'est les derniers raisins. Ou Meshamer Sadeu, et il garde quand même son champ, pas pour les raisins, mais Mipine Mikshot, Mipine Midlot, à cause des légumes qu'il a là-bas, il a des courges, des potirons, et donc finalement les raisins ils sont gardés, mais c'est pas eux qu'il veut garder. Est-ce qu'on considère que ça s'appelle qu'ils sont gardés, qu'ils sont à lui ou pas? Bisman shebalabait makpid alehen, si le propriétaire il est makpid, il fait attention à ce qu'on ne les prenne pas. Asurin mishum gezel, il est interdit de les prendre parce que c'est un vol. Vechayavin le maaser, et celui et le balabait lui-même quand il les prend, il doit faire les prélèvements de maaser parce que ça ne s'appelle pas esker. Donc, on est en train de parler maintenant des mauvaises figues, des mauvais raisins qui étaient gardés chez lui dans son champ et qu'il avait l'intention que personne ne les prenne. Dans ce cas-là, c'est pas Efker. Et donc, effectivement, personne ne peut les prendre et lui-même, quand il les prend, il doit faire les prélèvements. Bisman chen balabait makpid alen. Mais dans le cas où le balabait n'est pas makpid, il permet à n'importe qui de les prendre. Il ne fait pas attention à ça. Moutarin mishum gezel. Il n'y a pas de problème de vol. On peut les prendre. Ne crains pas que c'est considéré comme volé. Obturin mishum aser, et quand le balabait il les mange, il n'a pas besoin de faire les prélèvements parce que c'est comme quelque chose qui a été abandonné, qui n'a pas besoin d'être prélevé. Donc ici on voit que quelque chose sur lequel le balabait n'est plus makpid, il fait plus attention à ça, ça n'a plus d'importance, même si c'est gardé dans sa maison, c'est gardé dans son champ, parce que la maison elle est fermée, elle est surveillée, mais pour d'autres raisons, pour d'autres choses, c'est considéré comme efker. Donc pourquoi les abandonner? Pourquoi faire ce bitoul en fait? Répond la Gemara Maravak, Zera Shemaimsa Glous Kayafa. On craint qu'en plein Pessah, il risque de trouver un beau gâteau, Vedate il avait. Et que pendant un instant, il se dit, ah tiens, c'est joli, ça c'est sympathique, je suis content d'avoir trouvé ici un beau gâteau. Et un instant après, il se rappelle, ah non, mais c'est Pessah, je ne peux pas le manger. Et pendant cet instant-là, où il était satisfait de ce gâteau, qui n'a pas été brûlé, eh bien, il est ouvert sur Balirae. Il transgresse l'interdiction de la Torah d'avoir chez lui du Hamet. Et ce contentement-là, il fait que ce Hametz a pris de la valeur, et puisqu'il a pris de la valeur, alors il est interdit de la Torah. C'est pour ça qu'il est obligé de l'annuler, de manière à ce que même s'il le trouve pendant Pessah, il craint rien. Il le trouve pendant Pessah, c'est rien, c'est un Hametz qui a déjà été annulé. Même s'il en est content, il est content ici de la belle poussière qu'il a trouvée, qui s'appelait gâteau, et maintenant il n'y a plus de Avera. Demande à Gemara Bechimashkachat Lelivtel, pourquoi tu lui dis de faire le bitoul? Après Bdikat Hametz, je devrais lui dire de faire le bitoul quand il le trouve. Celui qui trouve un gâteau, il fait bitoul. Répond la Gemara, dis-le à Mashkachatele Batarisura. on craint qu'il trouve ce gâteau-là après l'heure du Issour. Velav birshute kaima, et que dans ce cas-là, ce n'est plus considéré que c'est dans sa propriété. Velomati mavtil, et il ne peut plus faire le bitoul. Ici, la Gemara nous apprend une grande halakha qui vient dire le bitoul ne peut se faire qu'avant l'heure de Srifat Hametz. On ne peut faire bitoul que tant que le Hametz est permis. Tant que le Hametz il est permis, il est à moi, je peux aussi l'annuler en tant que propriétaire. À partir du moment où le Hametz devient interdit, je n'en suis plus propriétaire pour pouvoir l'annuler. Je n'en suis que propriétaire pour transgresser le Issour de Balirae. Et là, il se trouve quelque chose, un paradoxe un peu spécial. J'en suis propriétaire pour transgresser le Issour, je n'en suis pas propriétaire pour pouvoir l'annuler. Et c'est très clair aussi, parce que s'il est interdit, en quoi j'en suis propriétaire? Et si je ne suis pas au vert, si je n'ai pas de Avera, alors en quoi il est interdit finalement? Donc ici, il se passe quelque chose de spécial, où la Torah d'une part considère le propriétaire comme propriétaire pour dire qu'il a fait une Avera, d'avoir gardé chez lui du Hametz. D'autre part, elle lui dit non, mais tu n'es pas propriétaire pour pouvoir l'annuler. C'est pour ça qu'il faut l'annuler au moment de Bdikat Hametz, tant qu'il en est encore propriétaire. D'Amar Rabbi Elazar, on continue dans la Gemara. D'Amar Rabbi Elazar, Shne Devarim Enan Birshuto Shel Adam. Il y a deux choses qui ne sont pas dans la propriété de l'homme. Ve'asana Katuv Keilu Birshuto. Et la Torah considère comme s'il était quand même propriétaire de ces choses-là. Ve'elu Enel, les voici. Bor Birshut Arabim, celui qui creuse un trou dans le Birshut Arabim. Il creuse un trou dans le Birshut Arabim dans le domaine public. Est-ce qu'il en est propriétaire? Non, c'est pas lui. C'est un domaine public. Est-ce qu'il n'en est pas responsable? S'il en est responsable, comme un propriétaire. C'est lui le propriétaire de cet obstacle-là. Il est le propriétaire de l'obstacle. Il est ici le propriétaire de ce Bor dans le Birshut Arabim, malgré qu'il n'en est pas propriétaire, il est considéré comme s'il était propriétaire de cet obstacle. Deuxièmement, le Hametz Mishashaotul Mala, le Hametz à partir de 6 heures, donc 6 heures ça veut dire depuis le début du jour, donc le jour il commence disons à 6 heures du matin, à midi c'est terminé, le Hametz est interdit, à partir de ce moment-là, il n'est plus propriétaire en réalité, théoriquement, de ce Hametz-là parce qu'il ne peut plus en profiter, mais d'autre part, on le considère comme propriétaire pour dire qu'il a le devoir de le détruire, il n'a pas le droit de le garder. Et puisqu'il n'en est plus propriétaire, donc c'est là on a dit, il ne pourra plus l'annuler, faire le bitoul, il ne pourra plus le faire pendant Pessah, c'est pour ça qu'il est obligé de le faire après Bdikat Hametz, le soir du 14 Nissan. Il fait, à la nuit du 14 Nissan, il fait Bdikat Hametz, et ensuite il fait le bitoul. Et là la Gemara va commencer à demander, pourquoi est-ce que le bitoul se fait à ce moment-là? On pourrait le faire le matin du 14 Nissan, on pourrait le faire à midi du 14 Nissan. Donc demande la Gemara, veniv tele be'arba, veniv tele be'chamesh. On devrait dire que le bitoul se fasse le matin du 14 Nissan, à 4 heures à partir du matin, donc ça veut dire à 10 heures ou à 11 heures. Répond la Gemara, Kevan de l'Avzmani Surahu, puisque c'est un horaire qui n'est ni l'heure où le Hametz devient interdit, Velavzman Biurahu, ni l'heure où il faut le brûler, on le brûle plus tard. Et le Hametz devient interdit plus tard. Donc ici, tu me dis, va faire Bitoul, Erev Pessah, à 8h du matin, à 9h du matin, à 10h du matin. Dilma Pacha Velamevatel, il va pas s'en rappeler du tout. Il a pas la tête dans le Hametz maintenant. Il a la tête maintenant dans le Sioum de Tanit Bechorot, ou autre chose. Et donc, il va pas penser à faire le Bitoul. Et puisqu'il va oublier de faire le Bitoul, puisqu'il ne s'occupe pas du Hametz, c'est pour ça qu'on est obligé de fixer le Bitoul à un moment où de toute façon il est occupé avec le Hametz, comme par exemple Bdikat Hametz. Il fait Bdikat Hametz, il termine de chercher le Hametz dans toute sa maison, et à ce moment-là il fait le Bitoul. La Gemara ensuite va demander pour quelle raison il ne peut pas faire le Bitoul au moment où il le brûle. Au moment où il le brûle, à partir du moment où il est déjà le Hametz devient interdit qu'il le brûle, là on devrait dire qu'il fasse le Bitoul. Mais ici la Gemara a déjà expliqué que faire en pleine matinée, en plein milieu de la matinée du 14 Nissan, c'est pas possible de lui fixer un horaire de bitoul parce qu'il va l'oublier. C'est pour ça que le bitoul a été fixé, comme on a dit, donc après Bdikat Hametz de la nuit de 14 Nissan, la nuit qui précède le 14 Nissan. Ça se prolonge dans le daf suivant, on va s'arrêter là pour le moment. Shabbat shalom à tout le monde.